Bonjour à tous. Alors, on va démarrer. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cet atelier sur l'application de la CSRD dans les activités immobilières. Alors, je suis Sarah Guéraud, je suis associée au sein du réseau CRO. CRO est un réseau du coup, de cabinet de conseil du coup, et d'audit. On est représenté sur tout le territoire national. Et je travaille sur ces thématiques ESG depuis maintenant un peu plus de 7 ans, notamment avec cette casquette du coup, d'OTI, d'auditeur sur les DPEF. Et du coup, j'anime cet atelier avec Stéphanie Garnier, qui est également du coup, associée au sein du réseau CRO. Et on travaille toutes les deux depuis 7 ans maintenant hein, sur toutes ces thématiques ESG. Et donc, on est ravis de pouvoir partager aujourd'hui du coup, nos connaissances sur cette nouvelle thématique de la CSRD et surtout d'accueillir nos deux témoins, Olivia et Anan, qui vont pouvoir nous partager du coup, leur expérience sur cette thématique. Du coup, après une petite présentation que nous allons faire de l'ordre de 10 minutes. Et ensuite, on passera du coup, à cette table ronde. Et nos deux témoins pourront du coup, vous partager leur expérience sur cette nouvelle thématique, en sachant que cette activité, donc voilà, cette application de la CSRD, comme vous le savez, c'est assez nouveau. Voilà, on n'a pas encore assez de recul sur cette thématique. Mais en tout cas, voilà, on a voulu choisir du coup, cette activité immobilière qui aujourd'hui impacte sûrement vos activités. Alors, soit vous avez des activités dédiées à l'immobilier, vous pouvez avoir une foncière, de la promotion immobilière, ou sinon, voilà, vous avez du coup, d'autres activités, mais vous êtes propriétaire d'un bâtiment ou de plusieurs magasins. Vous faites aussi de la rénovation. Donc, vous allez être impacté directement par cette thématique du coup, de la CSRD et du coup, de la taxonomie qu'on va voir tout à l'heure. Donc, je vous propose du coup, de démarrer avec notamment ce slide que vous connaissez déjà, qui est du coup, tout ce paquet vert du coup, réglementaire que l'Europe du coup, a mis en place depuis maintenant 2021. Et je vais faire un petit focus notamment sur la CSRD et le règlement taxonomie. Parce que donc, la taxonomie est un règlement européen qui est aujourd'hui applicable pour des grandes entreprises, dites IP. Il y a donc aujourd'hui du coup, des différentes marges d'escalier pour pouvoir y répondre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la CSRD, du coup, dans ces différentes normes sur lesquelles il va falloir du coup, reporter, la taxonomie est inclue du coup, dans ces indicateurs. Et ce qui est assez intéressant, c'est de faire le lien entre ces différentes réglementations. Parce qu'en fait, pour pouvoir répondre aujourd'hui aux enjeux du coup, de la transition durable, du coup, voilà, il faut prendre cela plutôt comme une opportunité et pouvoir commencer cette démarche du coup, de réflexion pour mettre en place les bonnes politiques et répondre aujourd'hui aux enjeux des investisseurs. Hein, parce que cette taxonomie, c'est aussi pour les investisseurs et les entreprises financières pour pouvoir classer du coup, leur actif et ainsi répondre à toute... ces flux de capitaux qui vont aller vers des investissements responsables.
Donc, faisons un focus sur l'entrée en vigueur de la CSRD. Donc, la CSRD a été votée donc, en janvier 2023. Aujourd'hui, elle n'est pas encore transposée dans le droit français. Nous espérons donc... que sa transposition arrive d'ici la fin de l'année 2023. Ce qu'on peut déjà noter en termes de calendrier et de périmètre, c'est que il y a deux jalons, ou en tout cas deux entrées en vigueur significatives. 1er janvier 2024, avec publication donc, en 2025 pour toutes les structures qui aujourd'hui sont dans le champ de la NFRD. Donc ce sont les entreprises, les grandes entreprises qui sont sociétés anonymes et EIP et qui dépassent 500 salariés. Donc ces structures vont être concernées par ces dispositions à compter du 1er janvier 2024. Deuxième palier ou deuxième entrée en vigueur significative, c'est la date du 1er janvier 2025, donc avec publication des informations début 2026. Cette cette phase d'entrée en vigueur va concerner toutes les grandes entreprises, sociétés anonymes ou autres structures juridiques qui vont dépasser deux des trois seuils que vous observez sur le support, à savoir 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et ou 20 millions d'euros de bilan, de total bilan, et ou 250 salariés. Donc là, en tout cas pour la France, voici les deux grandes vagues d'entrée en vigueur de la SSRD. Il faut vraiment noter que ces agrégats sont à considérer à l'échelle des comptes consolidés. Sinon des comptes sociaux si vous êtes dans une structure qui n'a pas de compte consolidé, mais on est bien au niveau du consolidé. Et peut-être dernier élément aussi, on l'abordera pas dans cette présentation puisque l'idée c'est de vous dresser en tout cas une présentation qui reste macro, mais les normes ESRS prévoient pour un certain nombre de normes ou un certain nombre d'indicateurs des mesures, on va dire, d'assouplissement, et avec un calendrier voilà, qui peut s'étendre à une ou deux, voire trois années de différé pour certaines normes et ou sur certains indicateurs pour des entreprises de moins de 750 salariés. On ne rentrera pas dans ce détail aujourd'hui, mais sachez qu'il y a aussi ces éléments.
Et donc, comme vous le savez, la CSRD, alors pourquoi du coup cette CSRD a été mise en place ? Je rappelle qu'au niveau européen, un état des lieux a été fait sur les déclarations de performance extra-financière. Et un des points qui a été relevé lors de cet état des lieux, c'est que notamment les déclarations qui étaient réalisées précédemment n'étaient pas normées. Donc l'idée est de pouvoir du coup comparer du coup les informations, notamment par secteur, d'où du coup la création de ces normes qu'on appelle du coup ESRS et qui viennent très récemment d'être validées de manière définitive le 31 juillet 2023. Donc il y a 12 normes qui existent et qui ont été du coup voilà, adoptées et sur lesquelles aujourd'hui les entreprises soumises vont devoir reporter les différentes informations pour pouvoir répondre à ces nouvelles obligations. Donc on va vous présenter du coup trois de ces normes, notamment les parties, trois normes du coup qui sont sur la thématique environnementale, qui nous semblent du coup les plus importantes au vu du secteur de l'activité immobilière, parce que je vous rappelle que pour savoir quelles normes sur lesquelles vous devez du coup répondre, vous devez faire notamment une analyse du coup de double matérialité. Donc aujourd'hui, vous avez sûrement mis en place une analyse de matérialité simple. Demain, du coup, il faudra du coup passer à cette double matérialité qui est une matérialité du coup d'analyse d'impact et d'analyse du coup financière. Et ce sont ces différents critères qui vont vous permettre du coup de pouvoir prioriser, hiérarchiser du coup vos enjeux ESG et notamment du coup ces normes. Et c'est vrai que sur la partie activité immobilière, on a préféré faire un focus sur le SERSE1 qui est le changement climatique, qui impacte du coup fortement cette activité. La thématique biodiversité, qui est une thématique nouvelle, donc c'était intéressant d'avoir aussi le témoignage du coup de nos deux expertes sur le sujet. Et puis la thématique du coup sur les ressources et économie circulaire, parce que c'est vrai que dans le secteur du mobilier, ça peut être un impact important. Donc on va vous présenter de manière synthétique du coup les grands points de ces normes.
Donc, en effet, la première norme, la norme changement climatique, alors avant de rentrer dans le détail de cette norme, peut-être un dernier élément à vous partager qui est très structurant et qui structure de la même manière toutes les normes. Chacune des normes va solliciter en termes d'information des éléments liés à la gouvernance, à savoir la manière dont sont pilotés les risques et les enjeux sur cette norme. De la même manière, il conviendra d'aborder des éléments liés à la stratégie de l'entreprise. Et ensuite, chacune des normes devra présenter la gestion des incidences, des risques et opportunités qu'on appelle IRO, puis présenter des cibles et des éléments de métriques, à savoir les indicateurs ou KPI, qui sont les termes qu'on utilise. Donc, concernant plus particulièrement la norme ESRS E1, changement climatique, donc cette norme va traiter de trois sujets principaux. Le premier sujet lié à l'atténuation du changement climatique, l'adaptation de l'entreprise ou du groupe au changement climatique et le sujet de, des énergies. Donc sur ces trois aspects, il conviendra naturellement de présenter dans la CSRD toutes les politiques qui sont liées ou qui présenteront l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, et toutes les actions et ressources en rapport avec les politiques en matière de changement climatique. Donc bien avant de présenter des indicateurs, il faudra présenter ces trajectoires. Pour vous apporter quelques exemples de KPI, on imagine bien que dans le secteur de la construction immobilière, l'entreprise ou le groupe présentera des informations concernant l'énergie. Donc la norme prévoit déjà de manière assez précise sur ce sujet-là les indicateurs et les informations à présenter, les modalités de calcul. Donc il conviendra notamment de présenter les consommations par source d'énergie. Donc il faudra donner les métriques concernant la consommation en électricité, en charbon, en gaz, en pétrole. Concernant si vous êtes en situation de produire de l'énergie, il faudra bien identifier la production d'énergie renouvelable, non renouvelable. Donc là, il s'agit de la partie énergie. Concernant la partie carbone, la norme attend à ce que les groupes présentent les émissions brutes, enfin les émissions de GES, scope 1, scope 2, scope 3, avec une période de transition pour le scope 3. Et effectivement, le scope 3 et le sujet des intrants, donc des matériaux dans le secteur de la construction, c'est naturellement une métrique qui sera attendue. Le tout présenté dans un référentiel GHG protocole et non pas méthode ABC que vous connaissez peut-être plus particulièrement. Donc voici quelques exemples d'indicateurs attendus sur cette norme changement climatique.
Ça marche. Alors ensuite, du coup, la biodiversité. Alors c'est un enjeu majeur, donc c'est très bien aujourd'hui que la CSRD du coup reconnaît enfin l'importance du coup de cet enjeu. Alors c'est assez compliqué du coup à mettre en œuvre parce que du coup c'est un thème qui est déjà assez récent. Il y a différents organismes qui proposent aujourd'hui du coup de pouvoir faire déjà un premier diagnostic. Et ce qui est certain, c'est que pour vouloir bien répondre à la norme, il faut déjà avoir fait cette évaluation du coup de son écosystème et de son activité pour pouvoir ensuite bien répondre à des politiques et ainsi avoir du coup des plans d'action du coup dédiés. Je ne peux pas vous donner trop d'exemples sur le sujet, mais du coup, ça sera tout le partage du coup d'expérience avec Olivia et Anan, qui pourront nous donner du coup quelques exemples. Et du coup, on vous invite du coup peut-être à faire déjà la fresque biodiversité. C'est une thématique que vous connaissez un petit peu moins. Et puis ensuite, de mettre en place du coup une analyse de risque sur ce sujet-là. Ça répond à plusieurs enjeux, la thématique pollution, économie circulaire, l'eau, bien sûr. Et du coup, c'est d'aller du coup pas à pas pour pouvoir mettre en place une politique cohérente.
Troisième norme, la norme en lien avec l'utilisation des ressources et l'économie circulaire. Donc, naturellement, il conviendra de présenter les politiques en matière d'utilisation de ces ressources. La norme traite de trois catégories de matériaux, de ressources, donc les ressources entrantes. Donc, c'est tous les matériaux qui rentrent dans la construction des bâtiments. On va même jusqu'à évoquer les emballages des matériaux. Les ressources sortantes, donc là, moins impactantes peut-être pour le secteur de la construction, et puis toute la dimension déchets qui, naturellement, est impactante. Sur la partie déchets, on entend les déchets dangereux, non dangereux, et on entend aussi, finalement... on va jusqu'à partager les informations liées à la manière de valoriser les déchets ou la manière dont on s'en débarrasse. Donc si ce sont des déchets qui sont incinérés, par exemple, etc. Donc, mais on laissera Olivia et Anan apporter davantage d'informations à ce sujet.
Alors, du coup, on va vraiment aller un peu plus vite sur les autres supports, parce que du coup, l'intérêt, c'est de pouvoir, du coup, qu'Olivia du coup, et Anan puissent partager du coup, leur expérience. Je rappelle les points de la taxonomie. Hein. La taxonomie, c'est trois KPI, trois indicateurs du coup, financiers, qui sont, sur lesquels en fait, les entreprises vont devoir reporter la part du coup, durable du coup, dans leur chiffre d'affaires, les CAPEX et les OPEX, hein, par rapport du coup, au référentiel européen. Et donc, du coup, les entreprises doivent répondre aux six objectifs environnementaux qui sont prévus. Alors, il y a tout un référentiel hein, qui existe aujourd'hui, qui est mis en place du coup par l'Europe, et sur lesquels on vous a également mis le lien du coup pour pouvoir aller un peu plus loin sur ce sujet-là. Mais je laisserai du coup nos témoins du coup en parler bien mieux que moi sur nos activités immobilières.
Juste vous préciser que les travaux sur la taxonomie, c'est des travaux qui se réalisent en cinq étapes. Le premier élément, c'est d'identifier si votre activité rentre dans les activités éligibles. Donc aujourd'hui, la taxonomie présente, à partir de la nomenclature NAS, une centaine d'activités dans ce spectre. Et concernant la construction, il y a 7 activités qui s'en détachent. Et ensuite, il convient de faire une analyse pour qualifier si l'activité de l'entreprise est durable. Donc pour ce faire, il convient qu'elle contribue substantiellement donc à au moins un des 6 objectifs environnementaux présentés par Sarah sur la diapositive précédente. Ensuite, il convient de vérifier que l'activité ne cause pas de préjudice important à aucun des objectifs que vous avez eus sous les yeux aussi tout à l'heure. Il convient de vérifier aussi le respect de l'activité sur des garanties minimales qui sont le respect des droits de l'homme, l'absence de corruption. Enfin, vous avez une liste de quatre garanties minimales. Et ensuite, vous arrivez à l'identification de l'alignement en fait de vos activités et en découle donc des indicateurs KPI. Qui sont qui présentent le pourcentage de votre chiffre d'affaires vert, le pourcentage de vos CAPEX et OPEX vert. Le tout défini par des critères très spécifiques, mais que nos deux témoins pourront présenter tout à l'heure.
Et donc, sur ce slide, rapidement, vous avez du coup l'ensemble des activités aujourd'hui immobilières qui sont du coup soumises à cette taxonomie. Donc, bien sûr, on vous a parlé du coup de la partie acquisition du coup des biens. Il y a le côté aussi rénovation du coup des bâtiments existants. Et puis du coup la construction, bien entendu, qui est un des points majeurs. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'aller directement à la table ronde.
Oui, tout à fait. Anan, Olivia, on va vous laisser, dans un premier temps, vous présenter, rappeler votre périmètre. D'intervention déjà chacune et puis ensuite on se donnera un temps de questions-réponses sur les thématiques qu'on vient d'évoquer.
Olivia, on vous laisse commencer.
C'est parti, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Olivia Conil-Lacoche, je suis directrice RSE et développement durable de Bouygues Immobilier. En deux mots, Bouygues Immobilier, on fait du logement principalement, du bureau, de l'aménagement de quartier avec des commerces. Donc, en gros, on fait des lieux de vie et il faut qu'on soigne notre impact à la fois sur la société quand on fait ça et sur l'environnement. Je commence à répondre aux questions.
On va laisser Anan. Ça marche.
Bonjour à tous. Je suis Hanan Haig, responsable du domaine finance durable à Certivea. Donc, nous, à Certivea, nous sommes un organisme certificateur. Nous délivrons des certifications de bâtiments et de territoires verts avec une série de labels sur différentes thématiques environnementales. Et nous avons travaillé, entre autres, sur une attestation de conformité avec la taxonomie pour aider les acteurs immobiliers, justement, à pouvoir répondre à toutes ces demandes du marché dans le cadre du reporting sur la CSRD.
Merci beaucoup. Donc, ce que je vous propose, c'est de répondre déjà à la première question. Du coup, comment ces nouvelles réglementations impactent vos entreprises aujourd'hui? Olivia, on vous laisse commencer.
Alors moi, j'ai envie de dire que c'est vraiment des sujets qu'il faut dompter, et c'est pas simple. En fait, on est quand même habitué, on commence à avoir une hygiène du reporting à travers la déclaration de performance extra-financière. Donc ça, on était habitué depuis plusieurs années à le faire en lien avec le groupe Bouygues, hein, puisqu'on est un des 5 métiers du groupe Bouygues. Et aujourd'hui, vous l'avez vu à travers la présentation qui a été donnée, le reporting qu'on nous demande de faire est un reporting beaucoup plus exigeant, qui est lié à la finance, à des données financières. On nous demande sur chacun des sujets matériels pour l'entreprise, et il faut déterminer déjà ce qui est matériel pour l'entreprise, finalement, quelle gouvernance est mise en place sur le sujet, combien on investit sur ces sujets-là, et avoir des KPI extrêmement précis. Alors ça, c'est du point de vue de la CSRD, je dirais, et on commence à s'y préparer déjà en décryptant les textes, en décryptant les exigences qui sortent en plus un peu comme du goutte à goutte. Hein. Donc on fait ça avec un écosystème d'acteurs, hein, de partenaires conseils, et avec le groupe, et je vois Virginie Savina qui le représente devant moi. Et puis, au point de vue de la taxinomie, je dirais que c'est un exercice un peu différent pour moi, donc juste pour en dire deux mots. La taxinomie européenne, c'est pas pour taxer hein, l'entreprise, c'est bien pour classer et faire la différence entre ce qui est une activité durable et ce qui n'est pas, au sens de l'Europe. Et donc, pour le secteur du bâtiment, pour être très concret, ça se traduit chez nous en 17 critères à peu près, 17 critères techniques extrêmement précis, et Certiva pourra, Anne, tu pourras en parler, extrêmement précis, et il faut qu'on démontre sur chacune des opérations qu'on sort qu'ils cochent l'ensemble de ces critères, parce que si on a un qui n'est pas coché, ça ne fonctionne pas. Donc pour être aligné à la taxinomie, il faut qu'on démontre que chaque opération qu'on sort et le chiffre d'affaires qu'elle génère sur l'année est bien aligné, c'est-à-dire qu'il coche l'ensemble de ces 17 critères, et je reviendrai dessus après. Simplement, c'est des critères exigeants, et ça demande, vous en rendez bien compte quand j'en parle, une collecte de données extrêmement précise dans une entreprise dans laquelle on a une culture de la donnée financière, mais la culture de la donnée extra-financière, elle est encore à développer avec tous les outils qui vont bien. Donc voilà, si je dois dire quelque chose, je dois simplement vous dire que c'est un sujet qu'il faut dompter, c'est un challenge, et que ça concerne tout le monde dans l'entreprise, c'est très transverse, de la finance à la technique, aux opérationnels, et donc c'est un vrai chantier qui s'engage, je pense, aujourd'hui, pour beaucoup, beaucoup de directions développement durable en lien avec... les autres directions dans l'entreprise.
Merci beaucoup. Anan, oui.
Oui. Alors, justement, puisque c'est un grand challenge, ce que Certiva a essayé de faire depuis plus d'un an et demi, donc depuis la sortie des textes de la taxinomie, ce que nous avons fait, c'est justement de décrypter ces critères, la liste de 17 critères que Olivia vient de mentionner, et de les cadrer dans un contexte et dans un langage, parce que les textes de la taxinomie aujourd'hui, ce sont des textes réglementaires. Ce que nous avons fait, c'est de les traduire, de trouver des correspondances avec des textes techniques dans un cadre qui est déjà reconnu et connu dans le marché français, qui est le cadre de la certification HQE, donc le cadre des certifications de bâtiments verts qui sont déjà connues par les acteurs immobiliers, dans un langage qui leur est simple. Et comme nous, on travaille déjà avec l'ensemble des parties prenantes sur le marché, les commissaires aux comptes, par exemple, inclus. Aujourd'hui, ce que nous avons essayé de faire sur le pilier de la taxinomie spécifiquement, c'est de faciliter, si vous voulez, la compréhension et le décryptage de ce challenge, de ces textes réglementaires. Et déjà, puisqu'il y a tout ce travail de reporting qui sera fait derrière, déjà la partie technique qui est liée au bâtiment en tel, que ce soit dans une activité de construction, de rénovation ou bien d'acquisition de bâtiments, déjà la partie technique, elle pourrait être couverte par les solutions, par la certification de bâtiment vert, par une attestation de taxinomie. Et comme l'a dit Olivia, c'est un grand chantier de décryptage de texte, de comprendre comment les différents KPI peuvent être mis en place, et surtout d'être sûr que l'ensemble de cette documentation qui va être collectée, elle sera au final aussi acceptée par les autorités qui vont revérifier, notamment les commissaires aux comptes, qui vont revérifier ces reporting et qui va dire que bon, on est bon pour présenter ce rapport. Surtout que dans un deuxième temps aussi, on s'attend à ce qu'il y ait un travail d'audit ou bien d'assurance sur ces rapports qui vont sortir. Donc dans ce cadre, en tant qu'organisme certificateur, en tant que tierce partie indépendante, ça va déjà aussi simplifier le saut vers ce qui va venir aussi après, en consolidant tout ce qui est technique pour le domaine de la construction et de l'immobilier dans des solutions simples et accessibles pour tout le monde.
Alors, du coup, Olivia, vous nous avez bien présenté effectivement le fait que ce point est transverse, concerne toute l'entreprise. Aujourd'hui, d'un point de vue plus opérationnel, comment vous anticipez ces changements ? Comment s'organise votre équipe pour adresser ces points ?
Alors, heureusement, on doit dompter la bête, mais ce n'est pas le rodéo tout de suite. On a un petit peu de temps pour se mettre en ordre de marche, je dois dire. Donc, la première année, on a déjà, sur la taxinomie, par exemple, dû voir quelle part de notre activité était éligible à cette taxinomie. Il se trouve qu'en promotion immobilière, on a quasiment 100% de notre chiffre d'affaires qui est éligible, c'est-à-dire potentiellement vert, potentiellement durable. Il y a d'autres secteurs dans lesquels c'était éliminé tout de suite d'office, il n'y avait même pas de travail à faire, ils n'étaient pas éligibles. Ça, c'était la première année. La deuxième année, donc l'année dernière, je dirais, l'année qui vient de s'écouler, on a dû commencer à regarder notre pourcentage d'alignement sur un certain nombre d'opérations. C'est là que les difficultés commencent. C'est-à-dire que, déjà, comme vous l'avez dit, il faut interpréter ces critères, et c'est vrai que des organismes certificateurs nous aident à ce décryptage, donc on s'entoure. Comment on s'organise ? On s'entoure de sachants, et puis on va se faire, entre guillemets, une religion. Est-ce qu'on va avoir une interprétation rigoriste des critères, ou est-ce qu'on va avoir une interprétation un peu plus lâche ? Est-ce qu'on veut afficher un chiffre extrêmement élevé dès le début, ou est-ce qu'on préfère être extrêmement serré dans ce qu'on va accepter comme étant une preuve ou un oui à un critère, en se disant qu'on fait un pari sur le fait de, petit à petit, progresser dans notre chiffre d'alignement ? Et puis, il y a déjà des acteurs parties prenantes à nous, business, c'est-à-dire par exemple des bailleurs sociaux ou encore des investisseurs, qui nous demandent opération par opération déjà certains critères. Donc pour faire ça, on a créé un comité opérationnel vraiment technique pour interpréter déjà ces critères et essayer de voir les actions correctives qu'il fallait mettre en place dans nos différentes offres. Chez Bouygues Immobilier, je vous l'ai dit, on fait du bureau, donc on a un cahier de prescription pour une marque qu'on appelle Bureau Généreux, par exemple. Puis on fait du logement, et là, on a plusieurs marques. On a la marque Cœur de Vie, qui est en fait, je dirais, une démarche de logement qu'on a essayé de généraliser à l'ensemble de notre production, ce qui est assez nouveau hein, chez un promoteur immobilier. Vous n'êtes pas dans l'automobile au départ, et au départ, c'était toujours la page blanche, etc. Là, on généralise une manière de faire du logement, et donc ça nous aide, parce qu'il suffit que ce cahier de prescription qu'on veut diffuser dans toute l'entreprise soit compatible avec la taxinomie pour que, quelque part, tout ce qu'on va mettre en conception dans les années à venir le soit. Donc vous comprenez que, finalement, c'est les équipes. Dans ce comité opérationnel, vous avez à la fois les équipes techniques et vous avez les porteurs de ces offres, Cœur de Vie en l'occurrence, par exemple, ou des nouvelles offres un peu plus disruptives, j'en parlerai après, comme des lofts configurables, qui sont d'ailleurs très compatibles avec la taxinomie, logis chez nous. Ça, c'est la première chose. Et puis le deuxième grand chantier, au-delà d'interpréter les critères, c'est cette remontée de données. Moi, je suis super embêtée aujourd'hui parce qu'en vrai, aujourd'hui, le reporting, j'arrivais à le faire, entre guillemets, à la mano, en allant tirer les informations opérationnelles par opérationnelles, agence par agence, et ensuite, on le mettait dans un système et on le faisait remonter au groupe. Sauf que là, vous comprenez bien que 17 critères par opération, c'est énorme. Alors, pareil, heureusement, c'est progressif, c'est-à-dire que l'année dernière, on a dû faire cet exercice sur un échantillon d'opérations et on était audité de manière globale sur notre démarche. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a tiré au sort des opérations de logement sur l'année et on a essayé de regarder si elles cochaient toutes les cases. Je vous rassure tout de suite, il n'y en a aucune qui cochait toutes les cases. Celles qui cochaient les cases, celles à qui on arrivait à faire cocher les cases, c'était les opérations d'immobilier d'entreprise. Parce qu'elles étaient plus proches des critères, de certains critères, et elles pouvaient donner certaines preuves parce que c'est déjà des opérations assez importantes et donc elles arrivaient à donner les preuves. Donc échantillonnage au départ, ça va. On arrive encore à le faire avec nos mains, notre téléphone, etc. Mais demain, c'est 100% des opérations qu'on analyse. Donc, le deuxième chantier, celui sur lequel on s'est organisé, c'est un chantier data environnementale qui, quelque part, fait le parallèle avec la data financière. Et là, moi, je suis moins rodée à l'exercice. Ça me paraît très compliqué, mais c'est ce qu'on doit mettre en place dans les années à venir avec, je vous le disais, des outils, des sachants. Et c'est une comptabilité extra-financière.
Et sur le côté, du coup, critères techniques, du coup, Anan, vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, justement. Alors, nous, pour ce qu'on s'est engagé à faire depuis le début, c'est d'accompagner les acteurs immobiliers, notamment dans ces démarches qui sont assez complexes. Et comme je l'ai dit au début, d'essayer de couvrir autant que possible la partie technique, ce qu'on a pu faire déjà, puisque la certification HQE BDV4, par exemple, elle permet justement de rassembler l'ensemble des éléments de preuve demandés pour dire que voilà, les opérations sont conformes avec la taxinomie et permettent de répondre à l'ensemble des critères techniques qui sont demandés pour les opérations immobilières en construction, en rénovation ou bien en acquisition. Donc aujourd'hui, nous, pour anticiper les changements, pour anticiper aussi les textes qui vont venir, il ne s'agit pas que d'une interprétation, parce qu'effectivement, les interprétations, ça peut être un peu subjectif dans le sens où il y a des textes qui ne sont pas assez clairs, qui ne sont pas assez directs dans le sens voulu. Quand on dit un peu, beaucoup, il y a par exemple la discussion éternelle des 15 et des top 15 et des top 30% par exemple du parc immobilier existant. Donc dans le cadre de tous ces textes qui sont parfois assez compliqués, assez complexes, et l'ensemble des réglementations, notre anticipation, c'est surtout essayer d'établir un consensus sur le marché. Donc aujourd'hui, si nous, on dit que notre certification, elle est acceptée comme mode de preuve, on ne verra pas quelqu'un qui viendra et qui dira non, ce n'est pas un mode de preuve accepté. Donc aujourd'hui, notre travail est surtout axé sur, si vous voulez, sur le lobbying, dans le sens de construire ce consensus, et pas que au niveau français. Nous participons aussi auprès de l'Alliance HQE, donc le Green Building Council français, le GBC de France qui est représenté dans le World Green Building Council, dans la CPEA, dans tous ces groupes de travail européens qui travaillent justement sur les critères immobiliers pour que l'ensemble de ces critères soient acceptés par le marché pour commencer, parce que la résistance du marché, c'est déjà un défi, pour que ce soit accepté et pour que ce soit applicable. Donc aujourd'hui, on ne peut pas demander des critères qui ne sont pas applicables par l'ensemble des bâtiments existants. Il y a déjà un parc existant assez important et en anticipant, il faut aussi être sûr que ce qu'on demande soit applicable dans les mesures où, bien sûr, on devient plus exigeant dans le sens de ce qui doit être fait, sans pour autant dire que tout ce qui est sur place n'est pas bon. On ne peut rien faire pour le rendre bon et pour le rendre durable. Donc notre travail, c'est surtout sur ce volet, auprès bien sûr de l'ensemble des parties prenantes, de l'ensemble des acteurs immobiliers.
Merci à vous deux pour ces éléments liés aux nouveaux changements. Peut-être que si on fait le lien avec les trois normes environnementales qu'on a présentées tout à l'heure, peut-être Olivia, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous apporter, je dirais à la fois sur la partie changement climatique, biodiversité, économie circulaire, un exemple ou deux, enfin, selon votre jugement, d'indicateurs, de critères voilà, que vous voudriez partager avec peut-être voilà, une méthodologie ou on vous laisse juger de ce qui pourrait être intéressant pour l'Assemblée.
Alors, je vais essayer de vous montrer un peu ce qui est nouveau, en fait, sur ces sujets-là. C'est des sujets sur lesquels on est bien sûr engagé depuis plusieurs années. On a des opérations exemplaires sur l'un ou l'autre de ces sujets-là, que ce soit biodiversité ou carbone. Et au grand dam des équipes, parfois, ces mêmes opérations qui ont reçu des prix et qui sont vraiment, dont les équipes sont fières, etc., et bien elles ne sont pas toujours compatibles avec la taxinomie. Donc c'est ça qui est difficile aussi pour nos équipes, c'est comment on a une approche extrêmement exhaustive sur nos opérations. Alors je prends trois exemples. Sur le bas carbone, je dirais que finalement, grâce à la RE 2020 et tout ce qu'on doit faire sur le bas carbone aujourd'hui, on répond quand même aux critères de la taxinomie et on répond aux exigences qui nous sont demandées. Bien qu'il y ait des preuves qui soient demandées très exigeantes, par exemple sur l'intégrité thermique d'un bâtiment ou son imperméabilité. Il va falloir avoir des modes de preuve plus importants. En revanche, sur l'adaptation au réchauffement climatique, là, c'est quand même un sujet assez nouveau, d'être capable de montrer l'exposition de nos ouvrages, leur degré d'exposition, et de montrer qu'on met en place en phase des actions de manière systématique. C'est une nouvelle culture aussi à développer pour l'entreprise. Et puis aussi de faire attention à ce que les mesures correctives qu'on va mettre en place pour qu'ils soient adaptés au réchauffement climatique ne viennent pas plomber leur bilan carbone. Vous voyez l'équilibre. Ça, c'est pour le carbone. Biodiversité. Moi, je suis assez déçue sur la taxinomie parce qu'on considère qu'il y a un alignement automatique de nos ouvrages à la question de la biodiversité aujourd'hui, du moment qu'ils ont reçu l'autorisation de déposer un permis de construire. Or, nous, chez Bouygues Immobilier, on est extrêmement engagés sur ce sujet depuis plusieurs années et on a décidé de développer justement une approche très structurée et très concrète. On a d'abord analyser nos impacts et nos dépendances à la biodiversité. Et on a décidé, je vous le fais très très rapidement, de mettre 3 actions en place sur l'ensemble de nos opérations. Un diagnostic écologique du foncier, une calculette biodiversité, une calculette des surfaces. Et on demande aujourd'hui à toutes nos équipes d'atteindre un pourcentage de surface perméable et végétale sur nos opérations. Donc ça, c'est quelque chose de c'est très engageant. Hein. C'est-à-dire qu'on va remanier les plans de manière à ce qu'il y ait plus de verre et plus de perméable, on puisse laisser passer l'eau sur les opérations. Et puis, on a développé, ça c'est peut-être un peu annexe, mais une offre de jardin, ça c'est plus pour les usages, très qualitative, dont peuvent profiter nos usagers. Voilà, donc moi, quand on me dit taxinomie, en fait, si tu as le permis de construire, c'est que c'est bon, tu es bon sur la biodiversité, je sais que non. Enfin, il y a plein de choses à faire qu'on peut faire en plus. Donc là, je suis un peu déçue. Côté CSRD sur la biodiversité, c'est très différent. C'est-à-dire que tout ce que j'ai mis en place avec les équipes et vraiment aujourd'hui toute l'entreprise est engagée là-dedans, ça répondait à des analyses d'entreprises engagées pour la nature. Je ne sais pas si vous connaissez cette reconnaissance. Et donc, c'était, on l'a pensé à ce moment-là, très pertinent pour le secteur. La CSRD nous demande autre chose. Elle nous demande d'aborder les choses un peu différemment. C'est-à-dire qu'au-delà d'analyser nos impacts et dépendances, on doit les évaluer de manière extrêmement précise, à la fois sur l'amont, c'est-à-dire notre relation avec la production des matériaux. Donc, il y a toute la question de la traçabilité des matériaux, à la fois sur les opérations directes. Alors ça, c'est ce qu'on met un peu en place avec, je vous ai dit, c'est ce calcul de surface favorable dont on a fait, en fait, un indicateur extra-financier, et à la fois sur l'aval, dans les usages, dans l'exploitation. Quelque part, la CSRD nous demande de nous poser de nouvelles questions, assez difficile d'y répondre, parce qu'aujourd'hui, le marché, les industriels sont structurés sur la question du carbone avec des FDES, des données sur le bas carbone. Mais sur la biodiversité, aujourd'hui, ce n'est pas si simple. Et donc, ça ouvre un nouveau travail assez titanesque, je dois dire, qui va nous prendre du temps. On a fait cette gap analysis, hein, on la présente au groupe vendredi. Et donc, on montre que c'est quelque chose qu'il va falloir conquérir petit à petit et qui, si vous voulez, pour moi, est pertinent, certes, mais par rapport à ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant et qui vraiment répond à un enjeu du secteur, de nos usagers, de nos produits, voilà, ça nous demande d'aller quand même beaucoup à nouveau dans la donnée avec des lourdeurs très importantes de process. Voilà, c'est mon opinion. Ça n'engage que moi. Et puis pour finir, si j'ai le temps, économie circulaire, je vais très très vite. C'est le critère le plus exigeant, et tu le diras, Anand, probablement, de la taxinomie. C'est très compliqué aujourd'hui, tu disais, on fait du lobbying pour que ce soit acceptable et qu'on puisse faire les choses sur le marché. Les critères économie circulaire sur la taxinomie sont difficilement atteignables pour certains, notamment tout ce qui est la question de la circularité. Il faut que votre bâtiment soit ou réversible ou démontable. Voilà, donc en gros, on te dit, ton bâtiment, il doit devenir du bureau, passer du bureau en logement sans que tu aies à déplacer des cloisons, ou en tout cas quand tu les déplaces, sans avoir à bouger par exemple les flux électriques et les flux de plomberie. Bon, bah ça, si ce n'est pas dès votre cahier de conception et que ce n'est pas extrêmement précis dans votre cahier de conception, vous ne pouvez pas le faire. Donc, très concrètement, chez nous, aujourd'hui, il y a une offre qui arrive à répondre à ça. C'est cette offre dont je vous parlais tout à l'heure de loft configurable. Pourquoi ? Parce que toute la partie humide dans ces lofts est au centre de l'appartement. Et ensuite, on n'a que des cloisons qui sont déplaçables, évolutives. Et c'est d'ailleurs la marque de fabrique de cette offre. Mais dans les produits plus courants qu'on fait en logement, c'est un critère extrêmement difficile à atteindre. Et donc là, on essaie de travailler à aligner nos cahiers de prescription en conception sur cœur de vie et d'autres offres pour pouvoir l'atteindre. Et je doute que les autres promoteurs l'atteignent très facilement aussi.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec Olivia sur le fait que certains critères de la taxinomie sont très exigeants, alors que d'autres sont vraiment montrés, disons, en surface, donc auxquels on peut répondre très, très facilement sans faire d'efforts. Mais ce que nous, on a essayé de faire, par exemple, sur la question, puisqu'on a parlé de l'adaptation au changement climatique, aujourd'hui, le critère de la taxinomie sur l'adaptation au changement climatique, dans notre référentiel HQE, il y a une mise en œuvre pratique avec pas mal de références, de sources, de logiciels même, qui pourraient permettre à n'importe quel acteur qui ne connaît pas le sujet de l'adaptation au changement climatique, qui n'a pas déjà travaillé sur le sujet, de pouvoir au moins avoir quelque chose pour commencer, pour comprendre quels sont les critères d'un point de vue technique, d'un point de vue applicable, et comment ça peut être appliqué pour une opération de construction ou bien de rénovation, par exemple. Et surtout, pour revenir sur l'élément le plus important, quels sont les éléments de preuve qui doivent sortir finalement de tout ce travail qu'on a fait pour qu'on puisse dire finalement que oui, l'opération, elle répond bien à l'ensemble des critères qui sont demandés. Idem pour les, par exemple, nous, ce qui est économie circulaire. Aujourd'hui, toute cette complexité se cache en fait derrière un texte de 3 lignes qui dit que le bâtiment doit être réversible, recyclable, recyclé. Il y a 4 ou 5 mots qui résument un travail derrière qui va commencer avec la toute conception, la toute première conception d'une construction. Donc effectivement, pour nous, c'est en fait pour chacun de ces termes, par exemple réversible, on a pris réversible, pour nous, c'est toute une exigence avec un ensemble de mesures qui peuvent être mises en place, un ensemble d'éléments de preuve qui doivent être présentés derrière pour qu'on puisse finalement dire comment on dit qu'un bâtiment, il est réversible. C'est ces définitions, effectivement, ces définitions et le consensus sur ces définitions qui peuvent être effectivement applicables et qui vont donner une feuille de route aux acteurs immobiliers pour qu'ils puissent commencer à répondre aux critères de la taxinomie et après aux critères de la CSRD et au reste des textes. Donc aujourd'hui, le travail, moi je parle davantage de la taxinomie puisque finalement la CSRD s'appuie aussi sur la taxinomie dans le reporting extra-financier. C'est parce que le travail sur la taxinomie, il est déjà complet de notre part sur le référentiel et donc sur l'ensemble de l'interprétation des critères. Donc voilà, on a l'ensemble des réponses à l'ensemble des critères qui sont demandés dans ces textes.
Merci beaucoup Olivia et Hanan pour vos témoignages, leur profondeur et puis les mises en perspective. Peut-être juste quelques mots avant de laisser un temps de questions-réponses. Vous avez bien noté, donc effectivement, on a parlé CSRD, on a parlé de taxonomie. Vous avez bien noté que la CSRD intègre dans la communication ou dans les éléments à reporter les éléments de taxonomie. Donc il y a une vraie cohérence, je dirais, entre ces deux référentiels. Vous avez aussi noté qu'effectivement, il s'agit là, dans le cadre de la CSRD et de la taxonomie, de produire des indicateurs. Voilà, on me dit que la séance est terminée. juste, retenez bien que la CSRD exige à peu près 2/3 d'informations qualitatives, 1/3 d'informations quantitatives. Et pour arriver à des indicateurs compliant, il faut bien, en amont, avoir défini une stratégie avec l'impulsion de la gouvernance et des politiques pour qu'ensuite, je dirais, vos indicateurs soient bien en phase avec les attentes de la taxonomie et vous permettent de communiquer sur votre performance durable. Merci à tous.
Merci Olivia, merci Alain. Merci beaucoup.